Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Quand Dieu est là, plus rien n'est pareil. Un petit écho. Quand Dieu est là, plus rien n'est pareil. Il change les vies. Il transforme les vies. Il renouvelle les vies. Il guérit. Je pense que quelqu'un a reçu la parole que Fabien a donnée tout à l'heure, mais c'est ça? Amen. Dieu parle et Dieu agit. Amen. Pendant la prière tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, et vraiment, je vous encourage de ne pas rater ces temps de prière, même si c'est avant, il y a des choses qui se passent. Je pense que le pasteur Romaric a posé des questions à plusieurs personnes, Ethan et Farah, c'est Farah, ont quasiment dit les points du message aujourd'hui, comme quoi Dieu est en train de parler, quelque chose se passe. Amen. Amen. Lavez les pieds d'autrui. Lavez les... Elle est prête à enlever les chaussures, pasteur Romaric. Lavez les pieds d'autrui. Ouais, y a un frère qui me disait, tu vas ramener une bacide, on va se laver les pieds les uns les autres. Ça peut ne pas être très joli, joli pour certains. Vous savez, j'ai fait un peu de foot, ça ne se voit pas, mais bon, j'en ai fait un peu. Et quand on rentrait au vestiaire avant de jouer, ça sentait bon, les gens arrivaient avec le parfum, c'était top. Hein? Mais quand on devait repartir dans les vestiaires pour se laver ou pour se changer, aïe! Quand on enlevait les crampons, aïe, 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 ça ne sentait pas très, très bon. Les pieds, bon, tout le reste ne sentait pas bon non plus, hein, mais les pieds, c'est quelque chose. Laver les pieds d'autrui. Vous savez, c'est une tradition qui existait chez les Juifs, donc le peuple d'Israël, de laver les pieds. De laver les pieds pour faire quoi? Pour accueillir quelqu'un. Pour dire, bienvenue dans ma maison. Bienvenue, je te lave les pieds, je t'accueille, je t'honore. Je suis à ton service. C'était ça. Et d'ailleurs, on le voit dans Genèse 18, 3 à 4, quand Abraham va voir passer l'ange de l'Éternel, il va voir des gens parce qu'il a une révélation physique de la présence de Dieu. Il passe, les trois personnes passent et il comprend que là, c'est Dieu qui est en train de passer. C'est l'ange de l'Éternel. Il va partir, il va courir et il va dire, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie loin de ton serviteur. Ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Ton serviteur veut laver tes pieds. Il y a aussi, Dans la tradition, c'était les esclaves de la maison qui lavaient les pieds de leur maître, mais qui lavaient aussi les pieds des convives du maître. Quand vous aviez des esclaves, ils étaient en charge de laver les pieds. Donc, c'était une tradition, en fait, un rôle assigné même à l'esclave. Et une dame dans la Bible, Abigaïl, qui va utiliser cette expression-là pour montrer comment elle s'humiliait alors que David, le roi David, va emmener ses serviteurs pour aller la voir et la demander en mariage. Abigaïl va dire ceci dans 1 Samuel 25-41. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » En fait, dans la tradition, laver les pieds, c'était réservé à celui qui avait la position la plus basse ou qui accueillait et qui se met dans une position de serviteur et qui lave les pieds. Et on retrouve Jésus, c'est dingue, Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est Dieu venu sur terre pour nous sauver, qui est le maître. Et ses disciples l'appelaient même Rabbi, qui l'appelait maître. On retrouve Jésus qui va accomplir cet acte-là. Waouh, c'est bizarre. Pourquoi il le fait? On le retrouve dans Jean, le chapitre 13. Et dans ce chapitre-là, ce qui se passe, c'est que c'est bientôt la Pâque. On a fêté la Pâque, là, récemment. C'était bientôt la Pâque et Jésus allait mourir. Pour l'humanité, pour toi comme pour moi, pour chacun de nous, son moment était arrivé, l'heure était venue. Il savait que dans quelques heures, il serait livré par un de ses disciples qui était là avec lui. Et Jésus va se retrouver dans cette situation-là. Et il va accomplir cet acte. En général, quand vous avez quelqu'un qui est sur le point de passer de ce monde à l'au-delà, et qui a la possibilité de rassembler ses enfants autour de lui, en général, on dit, la dernière parole, elle est forte. N'est-ce pas? Et Jésus était un peu dans cette situation-là. Même pas qu'un peu, il était dans cette situation. Il allait accomplir la mission. Il allait pouvoir dire, enfin, sur la croix, tout est accompli. Mais avant d'y aller, il va donner des dernières paroles. Ça va se passer du chapitre 13 de Jean, vous pouvez aller jusqu'au chapitre 18. Il va dire un certain nombre de choses, mais tout va tourner autour de cela. Et il commence par là. Il va laver les pieds. Il va faire cette démonstration-là à ses disciples. Alors je me dis, waouh, c'est important quand même. S'il prend le temps de laver les pieds à ce moment précis où il va sur la croix, c'est qu'il veut nous donner un enseignement qui est fort et puissant pour chacun de nous. Que tu aies 40 ans dans l'Église ou que tu aies un jour dans l'Église, cet enseignement est pour toi comme pour moi. Alors la question, c'est de se dire, qu'est-ce qui pousse Jésus à faire cela? On voit que dans le chapitre, Jésus va donner quelques significations à son acte. On peut en tirer trois ou plus, ça dépend. Il va parler de son humilité, le fait qu'il va s'humilier jusqu'à la mort de la croix pour nous. On le voit, on pourrait faire un message dessus. Il va aussi parler de la sanctification, alors qu'il veut laver les pieds de Pierre. Pierre va lui dire, non, Jésus, tu es trop grand, tu ne peux pas laver mes pieds, tu es mon maître. Et Jésus va lui dire, écoute, si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras pas part avec moi. Et Pierre va dire, oh là là, alors lave tout, ma tête, mes mains, enfin tout, prends tout, Jésus. Et Jésus va dire ceci, seulement les pieds et tu seras pur. Il y a un enseignement sur la sanctification, sur la pureté là-dedans. Et le troisième point qu'on peut en tirer, c'est le service. Et Jésus va le dire. Il va dire, voici, je vous donne cet exemple. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. Moi qui suis grand, je vous ai servi, alors je vous donne cet exemple. Et c'est ce point qu'on va retenir. C'est ce qui attire mon attention cet après-midi. C'est le service les uns pour les autres. Le service les uns pour les autres. Alors, qu'est-ce qui peut me donner une motivation? Quelle est la motivation aussi grande qui peut me pousser à aller laver des pieds? Je ne veux pas vous décrire les pieds de chacun. Ne me demandez pas d'enlever. Non, ça va. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui peut vraiment me motiver pour faire cet acte? L'image ici, c'est laver les pieds. Les gens avant, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de bus, ils n'avaient pas de tramway. Ça marchait des kilomètres et des kilomètres en sandales. Ce n'était pas des boots comme Pasteur Marc aujourd'hui, bien renfermés. Ou quand tu enlèves le pied, ça transpirait un peu, mais ça va encore. Mais eux, ils avaient des sandales, ils marchaient des kilomètres et des kilomètres. Et là, les pieds étaient en boue, pleins de poussière, c'était sale. Et franchement, la bassine, je n'aimerais pas passer en dernier parce que là, le jus, il ne devait pas être bon. Tout le monde a vu le dessin? Là, c'est bon, là, j'ai dégoûté plusieurs. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui peut motiver autant d'aller laver les pieds? En fait, l'image, elle est là. Comment tu peux servir jusqu'à la boue des pieds? Comment je peux servir? Qu'est-ce qui peut me motiver à aller jusqu'à nettoyer la poussière des pieds de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus? Et la poussière peut représenter plusieurs choses. Les difficultés, les problèmes, ta maladie, ta souffrance, tes incapacités. Qu'est-ce qui peut m'emmener, moi, à aller jusqu'à prendre soin de toi? La motivation. Et pour le faire, quelle attitude je dois avoir? J'ai ces deux éléments-là que je tire de ce texte et j'aimerais qu'on puisse regarder ces deux éléments. La motivation et l'attitude pour laver les pieds d'autrui. Oh, vous me direz, laver les pieds, ça peut être quoi? J'ai parlé de situations de vie de certains, mais il s'agit de se servir, de se servir les uns les autres. OK? Et certes, souvent on dit, oh oui, je le fais pour Dieu. OK, d'accord. Dieu que tu ne vois pas, tu le fais pour lui, alors fais-le pour ceux que tu vois alors. D'abord, et tu feras pour Dieu. OK? Mais en fait, au moment où tu sers ton frère ou tu sers ta sœur, tu es en train de le faire pour Dieu. Il y a des gens qui viennent ici, qui arrivent, qui ont rangé les chaises, qui ont positionné les chaises. Il y a des gens qui, après, là, vont faire le tour dans les toilettes. Il y avait de beaux messages cette semaine. Qui vont aller voir s'il n'y a pas, je ne dis pas le mot, pour nettoyer. Ils vont y mettre les mains dans le cambouis. Et ils vont nettoyer pour servir, pour que d'autres personnes qui vont arriver se sentent bien, soient servies. Ça, c'est du service. Il y a des gens qui se mettent à l'accueil, qui regardent dans les sacs. C'est du service. Ils servent les frères. Ils veillent à la sécurité des uns et des autres. C'est vrai, je peux dire, je le fais pour Dieu. Ce que le Seigneur nous enseigne ici, c'est de le faire pour ton frère et pour ta sœur. Arrêtons, je me le dis à moi-même, arrête Gérard de mettre le spectre, en fait le voile Dieu devant toi pour ne pas voir celui que tu dois servir derrière. Parce que ça devient facile de dire, je le fais pour Dieu, c'est pas grave, je le fais quand même. Ah non, 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 non. Dieu veut que tu laves les pieds de ton frère, aussi pourri soit-il. Dieu veut que tu laves les pieds de ta sœur, aussi poussiéreuse soit-elle. Le premier point, c'est la motivation. Qu'est-ce qui motive à laver les pieds? Et Jésus nous en parle. J'ai pris dans la version Semeur, on va lire Jean chapitre 13, le verset 1. C'était juste avant la Pâque, la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. Suivez bien la suite. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Pour laver les pieds, la motivation, c'est l'amour. Si je ne l'ai pas, je ne lave pas pour de vrai. La motivation, c'est l'amour. Et je me dis, waouh, Seigneur. Et il a tellement voulu que ce soit écrit comme ça. On le voit dans d'autres versions. Dans Louis II, il va parler de il a mis le comble à son amour. Le comble à son amour, c'est-à-dire que il a démontré son amour de façon exceptionnelle. Et la manière exceptionnelle dont Jésus va démontrer son amour, c'est d'aller laver les pieds des 12 disciples qui étaient là. Et ça, il le fait juste avant de partir, comme pour nous dire, regardez mes enfants, voici la clé que je vous laisse en partant. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. Le comble à son amour. On a vu, pasteur Mathieu a prêché là-dessus la semaine dernière, dimanche dernier, pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous encourage à aller écouter. Allez écouter. La simplicité, la puissance de l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour nous. Malgré ce qu'on est, ou ce qu'on n'est pas, malgré notre statut, notre niveau, combien Dieu nous aime. Je vous encourage à aller voir cela. Et Jésus va démontrer cet amour-là. Pour dire quoi? Pour dire que la motivation, ce qui va vraiment me motiver à laver les pieds, à servir mon frère, à servir ma sœur, c'est l'amour. C'est l'amour ardent, fort, suprême. Et s'il en parle, c'est parce que ce n'est pas facile, hein. Comme ça, et puis j'aime tout le monde. Non. On sait, il y a des gens avec qui on a des affinités, c'est bon. On peut aller boire un coup ensemble. Il y a des gens avec qui on peut aller jouer au bowling. Mais il y a des gens, ça ne le fait pas, on a moins d'affinités. C'est pas là le problème. Le Seigneur sait qu'on est différent, qu'on a des hobbies différents, qu'on a des actions différentes, on a des styles vestimentaires différents. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des chinois. Le Seigneur sait qu'on n'est pas pareil, qu'on ne mange pas pareil. Il y a des gens qui mangent des chenilles, il y a d'autres qui... il y a des gens qui mangent des rats. Enfin, bref, je mets l'accent dessus pour dire, il sait que tu peux ne pas apprécier, je peux ne pas aimer être en compagnie ou à la table de quelqu'un. Ce n'est pas ça le problème, mais il dit, et c'est pour cela qu'il le dit d'ailleurs, il sait que ça demande quelque chose, ça nous demande de faire un effort pour aimer ardemment. Pour aimer. Et si j'aime mon prochain, les amis, la question même de le servir ne se pose plus. Parce que je ne veux même plus y penser. Je ne vais pas dire, je le fais pour Dieu, je le fais pour Dieu. Non, non. C'est tellement simple. J'aime tellement les frères et les sœurs qui vont venir que j'ai envie que les chaises soient prêtes avant que tout le monde rentre. Tout est nickel, ça sent bon. Et quand tout le monde s'en va, je fais mon travail, je nettoie. Je vais voir les gens qui sont malades, je vais prier avec eux. Un frère, une sœur m'envoie un message. Waouh, mon cœur brûle de la compassion, de l'amour de Dieu. Et je bouge parce que l'amour me fait bouger. Et c'est ça. Je ne me rends même pas compte que je suis en train de laver les pieds, quoi. Remettez l'image des pieds bien sales, avec les champignons, enfin, comme vous voulez. Il y a des gens qui ne mangeront pas ce soir. Non, mais juste pour vous montrer la profondeur de la chose, quelle que soit la situation, c'est l'amour qui permet de surpasser cela. Amen. Laver les pieds de mon prochain, ça devient une banalité, tellement normale, quand l'amour est ardent. Si l'amour est ardent et fort, c'est une banalité, je ne m'en rends même pas compte. Jean 13, 34, 35, Jésus vers la fin, il va dire, « Je vous donne un commandement nouveau. » Aimez-vous les uns les autres. Farah l'a dit tout à l'heure lors de la prière quand Pasteur Omaric a demandé qu'est-ce que vous voulez. Elle a dit qu'il y ait de l'amour les uns entre les autres. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour que vous aurez les uns pour les autres. Pour que le monde dise, ah, ça c'est des enfants de Dieu, c'est l'amour entre nous. Waouh! Mais l'amour, ça se démontre. Je peux dire, j'aime, oh oui, je t'aime, mais bon. Jésus dit, tu laves les pieds. Si tu aimes, alors va nettoyer la boue qui est sur ses sandales, qui est sur ses pieds. Et Pierre va dire ceci, et Pierre, il était parmi les disciples ce jour-là, et on va lire dans 1 Pierre 4, 8, il dit, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Je l'ai mis en gras, oui. Ardemment les uns les autres. L'amour ardent surpasse tout. Et il va continuer en disant, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Oh, ça surpasse tout. Il y a des versets là-dessus. Vous pouvez méditer. L'amour surpasse tout. L'amour couvre tout. L'amour est au-dessus de tout. Et l'amour, c'est tout. Et Dieu dit que c'est ce qui nous, c'est ce qui reste si tu as tout perdu, mais l'amour doit rester. L'amour doit rester. Jésus nous donne cette preuve d'amour tellement forte en lavant les pieds de ses disciples. La motivation pour servir mon frère, pour servir ma sœur, c'est l'amour. L'amour ardent. Je n'y arrive pas, je prie. Quand je me lève le matin, je dis Seigneur, aide-moi à aimer. Je sais que je vais avoir des situations difficiles. Il y a des gens qui vont m'énerver. Quand je vais prendre la voiture, je vais voir des gens, ils vont me faire un queue de poisson, Mais donne-moi de garder l'amour. Le soir, quand je me couche, Seigneur, pardon. Et aide-moi à aimer encore. Aide-moi à aimer encore plus que ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Ça doit être ma prière de tous les jours, Seigneur. Je veux aimer. Deuxième point, c'est l'attitude à avoir. Et Jésus nous enseigne cette attitude, je trouve cela dingue. Et il a dit l'humilité. L'attitude pour servir mon prochain, ce que Jésus nous montre ici, c'est l'humilité. Oh, on connaît l'humilité, on sait. On sait de quoi il s'agit, mais ce n'est pas simple. Quelquefois de pouvoir se défaire de ce qu'on est pour servir plus petit que soi. Ou se défaire du petit qu'on est, de ce complexe d'infériorité pour servir d'autres personnes. Ça demande aussi de l'humilité. Ce n'est pas que quelqu'un qui a un statut haut vers un plus petit. Quelquefois, les situations les plus difficiles même, c'est quand le plus petit n'arrive pas à se défaire de son statut pour servir le plus grand. Ça crée de la rébellion, ça fait de la révolution, et ce ne sont pas des termes divins. Ce n'est pas des termes du royaume de Dieu. Et Dieu, Jésus corrige cela. L'humilité. Jean 13, 3 à 4. On lit ceci. Jésus savait. Et suivez bien, c'est fort. Il n'y a pas grand-chose, mais ça dit tout. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Et Dieu a tout mis entre les mains de Jésus. Quand on dit tout, c'est tout, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus boss que lui hein, dans l'univers, dans les siècles et des siècles. Il est l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Dieu avait tout remis entre ses mains. qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il le savait. Moi, j'aime trop comment ça se tient dans le verset. Il se leva de table. Il le savait, mais il se leva de table, pas pour dire c'est moi le boss. Il dit ceci. Il se leva de table pendant le dîner. Qu'est-ce qu'il fait? Il posa son vêtement. Il va enlever son vêtement. Il prend une serviette de lin qu'il noue autour de la taille. Et si vous continuez la lecture, il le fait pour essuyer les pieds qu'il va laver. Il prend la posture d'un esclave alors qu'il savait qu'il avait tout. L'humilité. Quand je regarde ça, je dis, waouh, Seigneur, l'humilité. Le vêtement représente, on a eu plusieurs messages là-dessus, le vêtement représente le don que tu as reçu, le talent que tu as reçu, le ministère que tu as reçu, tes capacités. Ça peut aussi représenter tes incapacités dont tu es revêtu, ton infériorité, le fait que tu sois petit, que tu aies un jour dans l'église ou 40 ans dans l'église. Ça représente ce statut-là. Ce que Jésus va faire, c'est qu'il aurait pu garder son vêtement et prendre la serviette, laver les pieds et nettoyer. Mais le lien qui est fait dans le verset, c'est trop fort dans ce verset. Il savait qu'il avait tout entre les mains, il enlève son vêtement et il s'humilie pour laver les pieds. Waouh, Saint-Esprit. L'humilité, l'humilité, l'humilité. Le fait que Jésus enlève son vêtement ne veut pas dire qu'il n'est plus Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus rien, que ce que Dieu lui a donné, il a perdu. Non. Il est toujours le même. Il est dans son statut. Il a tout ce que Dieu lui a donné. Mais il va quand même laver les pieds. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le vêtement que tu as reçu n'est pas incompatible avec l'humilité. Je peux être qui je suis parce que Dieu m'a donné. Il ne faut pas renier ce qu'on a. Quelquefois, on a une fausse modestie ou une fausse humilité de dire, ah non, quand on t'appelle, tu es un grand chantre de l'Éternel. Ah non, moi non, non, tu es un grand chantre de l'Éternel. Oui, je le suis, mais je te lave les pieds quand même. Je ne jette pas qui je suis, mais dans l'attitude, j'enlève le vêtement, je ne regarde pas mon vêtement, au qui je suis et je lave les pieds et je sers. C'est l'attitude à avoir. Simplement, c'est ce que Jésus nous dit. Que tu sois là pour la première fois, que tu sois là depuis quelques jours ou que tu sois là depuis 40 ans, 45 ans, il y en a parmi nous. Jésus dit simplement, aime et humilie-toi. Alors tu sauras laver les pieds. Et moi, je veux que tu laves les pieds. En fait, tout le message, il est là. J'ai écrit ceci, si je garde mes regards uniquement sur qui je suis, je risque de passer à côté de l'opportunité, de la grâce, de la chance, appelez-le comme vous voulez, en tout cas de l'immense honneur de laver des pieds. Je veux laver des pieds, moi. Je veux laver des pieds. Mais si je garde mon vêtement, je vais passer à côté. Ce serait dommage, parce que Jésus donne l'exemple. Avant d'aller mourir, ça veut dire que c'est important. Donc, si je ne le fais pas, waouh, je rate quelque chose. Et je n'ai pas envie de rater ça, les amis. On n'a pas envie de rater ça. Dans Luc 9, 47 à 48, il est dit ceci. Jésus, qui connaissait les pensées qu'ils avaient dans leur cœur, prit un petit enfant par la main, le plaça à côté de lui et leur dit, « Celui qui accueille cet enfant en mon nom, m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, accueille aussi celui qui m'a envoyé. » Car celui qui reçoit le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. On arrête de dire, qui est le plus grand? Moi, j'ai tel statut, moi, j'ai tel ministère. Oui, je l'ai, mais dans le principe du royaume de Dieu, le grand, c'est celui qui sert. Et si le petit, du coup, comme il est servi, il est grand, il devient grand et il sert. Je joue là-dessus. Il y a le principe de la réciprocité. Les uns, les autres. Et chaque fois que Jésus parle, il dit les uns aux autres. Les uns, les autres. Les uns aux autres. C'est réciproque. tu es petit, tu es grand, c'est réciproque. On se sert et c'est important pour l'Église. C'est important pour l'Église avec un grand E, pour l'Église locale. C'est hyper important de se servir les uns les autres, d'être en l'œuvre pour nos frères et pour nos sœurs. Seigneur, ma prière, c'est qu'il me donne, qu'il nous donne, en tout cas qu'il me donne, de garder le focus, le regard là-dessus, pour servir mes frères. Parce que lui a donné cet exemple. Je parlais beaucoup de prochain. Je vais demander à l'équipe de louange de venir. On ne va pas être long, mais on va prendre un temps pour prier là-dessus. Le message est simple. J'ai parlé d'autrui et de mon prochain. Autrui et mon prochain. On pourrait dire, mais c'est qui autrui? C'est qui mon prochain? C'est une question aussi qui a été posée à Jésus dans la Bible. Et il a répondu par une parabole. Le bon samaritain. Je crois que ça, on l'a tous entendu. Même pour ceux qui ne sont jamais venus dans une église, le bon samaritain, on a toujours entendu parler du bon samaritain pour dire quelqu'un qui est bien, qui fait du bien à quelqu'un d'autre. Et dans cette parabole-là, il y a un homme qui est attaqué par des brigands. Il est sur un chemin. Ils vont lui faire du mal. Ils vont le rouiller de coups. Ils vont lui voler tout ce qu'il avait sur lui. Et le laisser sur le bord de la route, complètement blessé, presque mort. Et plusieurs personnes vont passer, des personnes d'un certain rang social, des personnes d'une certaine connaissance de la Bible. J'ai ma Bible en physique. Des personnes d'une certaine connaissance de la Bible qui vont passer, des grands hommes de Dieu qui vont passer, et toutes ces personnes-là vont passer loin de lui. Non, je ne me rapproche pas de lui. Il y en a un qui va passer, le fameux bon samaritain, qui lui va s'arrêter. Il ne connaît pas le bonhomme qui est là. Il va s'arrêter. Il avait son planning en tête, mais il va s'arrêter. Il avait des rendez-vous certainement. Il va s'arrêter. Il avait certainement du business à régler. Il y avait des choses importantes qui l'attendaient. Mais il va s'arrêter. Il va se rapprocher de lui. Il va se rapprocher de lui. Il va le prendre. Il va le soigner comme il peut. Il va l'emmener dans un hôtel. Il va le confier au responsable de l'hôtel. Et il va lui dire, prends soin de lui. Voici un peu de sous. Achète ce qu'il faut. Va à la pharmacie. Vois les médecins. Fais ce qu'il faut pour lui. Et quand je reviens, si ça n'a pas suffi, je t'en redonne. Je te paierai la différence. Il ne le connaît pas. Mais il va prendre soin de lui. Et Jésus va donner cette parabole-là pour dire, vous voulez savoir c'est qui votre prochain? C'est qui là le prochain de ce bonhomme? Et ils vont répondre, ben oui, c'est le Samaritain, son prochain. C'est vrai qu'à la lecture, et on en a discuté en préparant justement le message, on a l'impression que le prochain c'est celui qui fait du bien ou celui qui a besoin d'aide. Mais en fait, le prochain, comme le mot le dit en grec, plésion, je ne l'ai pas mis, mais c'est être proche, c'est tout. Les autres sont passés loin. Ils sont passés loin, mais lui, il s'est simplement rapproché. Et à partir de là, il a senti les douleurs du bonhomme. Il a vu les plaies de près. Il a vu les larmes de près. Il a vu les coups, les bleus qu'il avait sur son corps. Il a vu de près la douleur du gars et il a pris en charge parce qu'il s'est rapproché. Je ne peux pas laver les pieds de loin. C'est impossible. Il faut que je me rapproche et que je m'abaisse et que je prenne l'eau et que je frotte les pieds. Et là, je sens les pieds de près. Et Jésus va dire, le prochain, c'est celui-là. Et c'est les uns les autres. Si je me rapproche de quelqu'un, automatiquement, il est proche de moi. Et ça peut être réciproque. Je lave ses pieds. Mes pieds sont à côté, il peut les laver. Et c'est ce que le Seigneur veut. Et c'est l'amour qui permet de faire tout cela. À cela, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. À cela, le monde reconnaîtra que nous sommes des enfants de Dieu. Les amis, mon prochain, c'est certainement une personne qui est très différente de moi. J'en ai parlé tout à l'heure. Et juste avant de prendre un temps dans la prière, Juste regardez ce qui se passe. Jésus est en train de laver les pieds des 12 disciples. Parmi les 12 disciples, il y en a un qui s'appelle Judas Iscariot, qui va livrer Jésus quelques heures après. Ah, Jésus aurait pu ne pas laver ses pieds, hein. Connaissant déjà ce qui allait arriver. Et la Bible dit, il savait que son heure était venue et qu'il serait livré. Et il le dit lui-même dans le chapitre à plusieurs reprises. Mais il va laver les pieds quand même. Et puis, il dit aux disciples, c'est l'exemple que je vous donne. Faites-le. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. Mais en le disant, il sait très bien que c'est dur. C'est pour ça qu'il le dit, parce qu'ils sont tellement différents. J'ai pris quelques exemples. Parmi ces disciples-là, il y avait un qui s'appelait Matthieu. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. C'était le fisc, en fait. Il prenait les sous aux gens, et à l'époque, il le faisait pour l'Empire romain. Donc, il était encore mal vu en Israël. Et certainement qu'il y avait un peu de sous-table qui se passait. Et c'était ça, Matthieu. Le gars détestait, et c'est biblique, les gens détestaient les collecteurs d'impôts. Matthieu était là. Parmi eux, il y avait un qui s'appelle Marc. Marc, il est dit que, en fait, il a travaillé après comme traducteur de Paul. Donc, il avait un certain niveau intellectuel. Il parlait, je ne sais pas, deux ou trois langues. Donc, on pourrait l'apparenter aujourd'hui à un secrétaire. Celui qui organise le voyage de Paul, celui qui fait l'interprète, celui qui va voir les gens, qui écrit pour. Donc, c'était un intellectuel. Luc, il y avait Luc, c'était un médecin, il connaissait l'anatomie humaine. Quand les gens avaient des bobos, allez, prends cette plante, ça va aller bien. Jésus pria aussi et puis la personne guérissait. Mais Luc était médecin. Waouh, il était médecin. Là-dedans, il y a un qui s'appelle Simon. On l'appelait même le zélote. En fait, lui, c'était un religieux politicien qui était dans la rébellion contre les Romains. Vous voyez le genre. C'était un disciple aussi parmi eux. Il y en a un qui s'appelle Pierre. Bon, on le connaît. Comme d'autres aussi qui étaient simplement des pêcheurs. Lui, il sentait le poisson hein, à longueur de journée. On parle beaucoup d'odeur aujourd'hui. Pierre, il sentait le poisson. C'était un pêcheur. Tout ce qu'il savait faire, c'était aller pêcher. Il n'avait pas beaucoup de succès en plus, le gars, dans sa pêche. Mais c'était ça. Et plusieurs étaient pêcheurs comme lui. Un pêcheur, un secrétaire, un interprète, un médecin, un collecteur d'impôts, un rebelle qui tuait des gens. Bref, Judas Iscariot était parmi ceux-là aussi. Lui, dans le groupe, c'était le trésorier. Il gardait les sous de l'équipe de Jésus. Et donc, il avait certainement des connaissances en comptabilité. Tout cela était là. Je ne cite pas les autres. Si vous voulez faire des recherches, allez-y. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'était un beau panier de crabes, les disciples. Ça se montait les uns sur les autres. Mais Jésus va leur donner l'exemple en disant, pour que tout ça tienne bon, moi je m'en vais, je ne suis plus avec vous physiquement, mais pour que tout ça tienne bon, lavez-vous les pieds les uns aux autres. L'amour. L'humilité. Amen. On va baisser les fronts et je pense qu'il y a un appel qui est général pour chacun de nous. Et je crois qu'on peut tous se tenir debout pour ceux qui peuvent. On va se lever et on va prendre ce chant et on va prier pour demander au Seigneur de nous donner de manifester l'amour ardent et l'humilité profonde. Afin de pouvoir servir les uns les autres. Afin de pouvoir laver les pieds les uns aux autres. Dans la simplicité et dans l'amour de Dieu. Alléluia, Jésus.